Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ancora Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Kaká in percussione, Xhaka all'ingresso in area ancora, Kaká, davanti al portiere, Kaká, rete, Kaká.
Pallone che arriva, Trezeguet, Totti! Pirlo ancora, Pirlo di tecco, tiro, gol di Grosso. Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador, sei tutti noi Matador, ci prova con il testo,
e la rete, si gonfia la rete, Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% foot italien. Je suis évidemment toujours en plein été, comme le reste de l'année, en compagnie de Guillaume Meyer-Patini. Salut Guillaume.
Salut Johan, bonjour à tous, et très heureux de te retrouver en cet été, écoute, un peu pluvieux, cher Johan, mais le mercato, en tout cas en Italie, est très animé, donc écoute, pas mal de choses à dire, donc hâte de pouvoir débattre avec toi.
On va justement faire un petit podcast d'actu, mon cher Guillaume. Aujourd'hui, on voulait évoquer l'un des sujets les plus importants du moment en Italie, dans ce mercato estival qui a mis longtemps avant de démarrer et qui n'est pas encore vraiment très très lancé en Italie pour des raisons majeures économiques, hein, comme assez souvent ces dernières saisons en Italie. Et ce sujet d'actu, c'est le mouvement autour de Dusan Vlahovic et Romelu Lukaku. Alors Guillaume, pour bien commencer et poser les bases, est-ce que tu peux nous rappeler les dernières infos, les montants discutés autour de double transfert entre la Juve et Chelsea?
Alors écoute, l'avantage, Johan, c'est que les sources se rejoignent pas mal. Donc il n'y a pas, on va dire, de choses discordantes. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'échange est plutôt bien parti, que la semaine prochaine, selon Sky, devrait être décisive pour la bonne issue de ces deux dossiers qui sont liés. Donc voilà, c'est quelque chose qui est bien avancé. Concernant les sommes, on sait que la Juve réclame une indemnité supplémentaire à Chelsea d'environ, alors à la base c'était 50 millions, mais disons que les deux clubs pourraient se retrouver autour de 30-35. Donc le deal, on va dire dans l'idéal pour les deux clubs, à mi-chemin, pourrait se finaliser autour de Romelu Lukaku plus 30-35 millions d'euros. Égal Dusan Vlahovic. Voilà, c'est quelque chose qui est plutôt concret. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé d'en débattre, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur l'aspect financier, sur l'aspect technique. Mais en tout cas, voilà, l'échange est quelque chose qui aujourd'hui est plus que concret, que ce soit du côté de Turin ou du côté de Londres.
Alors, le deuxième élément de contexte à rappeler, c'est un petit point statistique sur la dernière saison, la saison passée des deux joueurs qui évoluaient tous les deux en Italie. Dusan Vlahovic, c'est donc 14 buts, dont 3 pénaltys et 4 passes décisives en 42 matchs pour 34 titularisations. Romelu Lukaku, c'est 14 buts, dont 4 pénaltys et 7 passes décisives en 37 matchs pour 20 titularisations. Les stats de buts et de passes décisives sont finalement assez proches, mais le temps de jeu est clairement inférieur pour Romelu Lukaku, qui a été longtemps blessé. On en a pas mal parlé la saison passée, et ça a d'ailleurs été un des problèmes en sortie d'hiver, début de printemps de l'Inter, de ne pas pouvoir compter sur un Romelu Lukaku sur le terrain d'abord et en pleine forme ensuite. Guillaume, on va essayer aussi de rappeler pourquoi ce mouvement est dans les tuyaux entre la Juve et Chelsea. On va faire chaque club, on va commencer par la Juve, et il y a un élément qui est très important du côté de la Juve, que Massimiliano Allegri a d'ailleurs confirmé en conférence de presse post-match souvent aux États-Unis lors de la tournée, c'est une logique économique.
Bien sûr, et d'ailleurs, tu l'as dit, Max Allegri l'a rappelé, mais un bon mois avant lui, Cristiano Giuntoli, qui est le nouveau directeur sportif de la Juve, l'avait aussi indiqué en conférence de presse, où il avait parlé d'un sacrifice nécessaire. Il avait dit Vlahovic et Chiesa sont deux joueurs qui techniquement sont intransférables, mais d'un point de vue financier, évidemment que la Juve doit ramener de l'argent dans les caisses. Et ça s'inscrit dans cette logique-là. On rappelle que le club vient d'être exclu officiellement, alors on s'en doutait, mais maintenant c'est officiel depuis une bonne semaine, de la Conference League. Donc selon les sources, selon la presse italienne, on parle d'un manque à gagner d'environ 80 millions d'euros, si on considère la billetterie, les recettes. Voilà. Si on prend le total là, la Gazzetta parlait de 80 millions, donc c'est un manque à gagner important. On rappelle que le club financièrement avait déjà des besoins avant cette exclusion. Donc voilà, même si ce choix technique peut surprendre, et on va en discuter à Johan, en tout cas pour la Juve, ce qui prime, c'est l'aspect financier, et de pouvoir vendre Vlahovic, sur lequel elle avait investi 91 millions d'euros, si on considère les bonus et les accessoires, voilà, tout compris. Moi, j'avais eu le communiqué, on enregistrait avec toi, Johan, c'était 91 millions d'euros au total. Donc forcément, pouvoir se séparer de Vlahovic, s'en séparer à Chelsea et récupérer une somme d'argent, alors on va dire allez, une quarantaine de millions d'euros dans l'idéal, plus un joueur comme Romelu Lukaku qui est un joueur prêt, un attaquant qui connaît la Serie A, qui a déjà gagné à l'époque avec l'Inter. Donc voilà, pour la Juve, c'est d'une pierre deux coups, mais c'est évident que l'aspect financier, dans le cas de Dusan Vlahovic, est l'aspect primordial du côté, en tout cas, du club piémontais.
Alors de l'autre côté, Guillaume, du côté de la Tamise, c'est pas une question d'argent, hein, vu les montants qui sont dépensés depuis l'arrivée de Todd Boehly à la tête du club. Là, c'est plus un besoin sportif, le besoin d'avoir un numéro 9 qui n'est pas Romelu Lukaku, qui correspond pas forcément à ce que veut Pochettino. Et puis on a le sentiment qu'après sa seule saison à Chelsea, là, une fois qu'il avait quitté l'Inter, on a un peu le sentiment que l'histoire s'est arrêtée pile à la fin de cette saison-là, donc qui était la 2021-2022, si je ne me trompe pas.
Oui.
L'expérimentation Kaya Havertz en faux numéro 9, je pense que ça a arraché suffisamment de cheveux chez les supporters de Chelsea, chez les entraîneurs aussi. Donc, il y a la vraie nécessité sportive d'avoir un numéro 9 un petit peu différent. Donc, on a évoqué les deux côtés, les besoins des deux clubs, hein, qui finalement sont très différents, mais qui vont pouvoir se rejoindre autour de ce transfert. Il y a une question qui va être très importante pour nous à étudier, Guillaume. On va laisser Chelsea un petit peu de côté, côté Juve cette fois. Qu'est-ce que ça change de jouer avec Vlahovic et qu'est-ce que ça change de jouer avec Lukaku? Parce que c'est un point aussi qui va être essentiel. Une fois que le transfert aura lieu, s'il est bien confirmé, etc., on met toujours un peu les garde-fous au niveau du mercato. Ouais. Mais une fois qu'il aura lieu, il faut s'attendre à quoi du côté de la Juve? Parce que on va rappeler quand même un peu du côté des Turinois, ce qui s'est passé avec Vlahovic, qui avait explosé à la Fiorentina dans un style très ouvert, très offensif, très créatif, avec beaucoup de soutien à des joueurs offensifs, même parfois des joueurs un peu inattendus, les Saponara, les Bonaventura, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là avec Vincenzo Italiano quand Vlahovic était encore avec la Viola. Une équipe qui était très haut sur le terrain. Et Guillaume, ça c'est le contexte de l'explosion de Vlahovic. Et puis derrière, rappelons quand même, parce qu'on va parler du style de jeu de la Juve, évidemment, qui ne correspond pas aux qualités de Vlahovic, mais Guillaume, on l'avait suivi, hein. Vlahovic avait la possibilité d'aller en première ligue avant de rejoindre la Juve au mercato hivernal. Mais,
oui, il part en pleine saison. Hein.
Il part au mercato hivernal. Hein. Ah ouais. Il y a Arsenal qui fait une très grosse offre que la Fiorentina est prête à accepter. Mais Vlahovic insiste lui-même pour aller à la Juve, qui était déjà entraîné par Massimiliano Allegri, ouais, dont on voyait déjà les limites en termes de jeu.
Mais tu t'en rappelles, on en avait parlé. Hein, si on retrouve les archives de Calcio PP, je me souviens que... Alors, c'est un transfert qu'on pouvait comprendre, on va dire, sur l'aspect peut-être émotionnel, le fait qu'un grand club comme la Juve vienne te chercher, mais en tout cas, sur l'aspect technique, on est passé d'un Vlahovic à la Fiorentina qui était vraiment épanoui dans le collectif, avec une équipe qui jouait pour lui, parce que vraiment, il était à la pointe de l'attaque, mais il y avait vraiment une équipe qui allait de l'avant, qui jouait au ballon. Et c'est certain que quand on a vu Vlahovic partir dans cette Juve-là, c'est pas le fait qu'il parte à la Juve tout court, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Hein. C'est pas le premier à être passé de la Fio à la Juve.
Mais c'est plus sportivement, ça se justifie.
Bien sûr. C'est juste que moi, déjà, personnellement, tu vois, le faire en plein milieu de la saison, alors que tu connais un bon début de saison, c'était un peu surprenant. Mais c'est certain que partir dans cette Juve-là où on voyait les difficultés dans le jeu, dans le collectif, qui malheureusement pour lui se sont confirmées. Alors, il a eu aussi des blessures, il a eu des coups d'arrêt. Ça a aussi influé sur son humeur. On a vu un Vlahovic à eux de mauvaise humeur, où il était assez agacé de ne pas avoir de ballon, de ne pas avoir de... Voilà, une équipe qui joue pour lui, entre guillemets, mais du moins qui attaque, qui propose du football. Et on le voit, ça fait maintenant un an et demi. Et c'est un Vlahovic, alors qui a ses torts, évidemment. On ne peut pas le nier, mais qui, en tout cas, de ce qui filtre, Yvan, tu vois, dans la presse italienne, j'ai un peu relu tous les articles qu'il y avait ces derniers temps. Et du côté, tu vois, de l'entourage de Vlahovic, on estime quand même que du côté de la Juve, on n'est pas mis à sa juste valeur. C'est-à-dire que Vlahovic, voilà, il a ses qualités et il n'arrive pas à les exprimer dans ce collectif-là parce que, en fait, il n'est pas épanoui. Et tu sais comment ça se passe dans le football. Alors, tu n'es pas épanoui, tu n'es pas heureux, tu t'agaces, ça t'énerve. Et voilà, après, tu fais beaucoup d'erreurs. Et on l'a vu la saison dernière, on l'a vu même lors des 6 premiers mois qu'il avait fait à la Juve. Voilà, c'est pas le Vlahovic qu'on a vu à la Fiorentina. Il a un peu de mal à passer ce step-là, mais parce qu'il n'est pas mis dans les conditions nécessaires pour pouvoir assurer son football. Et cet échange avec Romelu Lukaku, bah ça s'inscrit aussi dans le jeu, ou le non-jeu, ça dépend des points de vue, que veut proposer Max Allegri. C'est-à-dire que, il y a une expression qui revenait souvent dans la presse ces derniers temps, c'était de dire que Lukaku faisait les parts da solo. Ça veut dire, tu vois, qu'il fait un peu l'attaque à lui tout seul. Et c'est un peu l'idée de football qu'a Allegri. C'est-à-dire que Lukaku, en jeu, en pivot, dans la place qu'il prend devant, dans le jeu que Allegri exprime, c'est quelque chose qui se colle parfaitement. Et c'est certain qu'avec Vlahovic, qui a besoin d'espace, qui a besoin de toucher le ballon, de décrocher un peu, d'être lancé, c'est certain que c'est pas ce jeu-là. Donc, cet échange-là, dans l'aspect technique, on va dire qu'il peut y avoir une certaine logique sportive. Mais voilà, c'est certain que tu as un joueur de 23 ans, un joueur de 30 ans, et tu as deux profils tellement différents. Et c'est certain que ça peut... le sentiment général chez les supporters, on va dire la grande majorité, c'est quand même le mécontentement parce qu'on ne sait pas d'un joueur à fort potentiel, parce que le collectif autour de lui n'est pas top pour un joueur qui est certes un joueur accompli, Lukaku. Alors on peut pas dire que c'est un mauvais attaquant. Hein. L'année dernière, tu l'as dit, il a connu deux saisons en une, pré-mondial et post-mondial, où vraiment il a fini en trombe hein, quand même la saison hein, avec l'Inter, même s'il n'est pas titulaire pour la finale de C1. Mais en tout cas, c'est certain que c'est un échange qui peut surprendre, mais si on enlève l'aspect un peu émotionnel de cet échange-là et qu'on raisonne un peu à froid, si on regarde un peu le jeu de la Juve, heureusement ou malheureusement pour les supporters, il y a une certaine logique.
Ouais, et puis la plus grande différence, en fait, le passage de la Fiorentina à la Juve, c'est que Vlahovic, il a reculé de 40 mètres, en fait, sur le terrain. Et ce qui était facile de faire, à faire, en tout cas, dans les 30 ou 20 derniers mètres à la Fiorentina, parce que l'équipe jouait déjà très haut dans la surface adverse, en fait, enfin, dans la moitié de terrain adverse. Donc, c'était beaucoup plus facile de le faire que quand tu joues à 50 ou à 60 mètres du but adverse, où tu as tout le terrain, une moitié de terrain, une grosse moitié de terrain à remonter. Et où c'est un petit peu plus délicat. Et le jeu très vertical que tu as expliqué, qui va beaucoup plus aller avec les qualités de Lukaku, effectivement, avec Vlahovic, il y avait une incompatibilité de jeu, en fait, une incompatibilité d'approche footballistique entre Lukaku, entre Vlahovic et Allegri, qui était assez claire. On l'a vu, tu as parlé d'un joueur qui était agacé. Il y a un truc qui revient quand même assez souvent. On le voyait, les médias italiens le relayaient suffisamment. En fait, généralement, tu sais, la photo d'illustration quand la Juve ne gagnait pas ou faisait un match nul décevant, etc. C'était Vlahovic, le regard dans le vide, assis sur le banc une fois qu'il avait été remplacé. Et le mec avait l'air à moitié déprimé, à moitié en train de se demander ce qu'il faisait là, à moitié en train de se demander ce qu'il pourrait faire de mieux, etc. Donc, effectivement, à partir du moment où tu as confirmé Allegri, en fait, ce qui peut se discuter, on connaît un peu notre avis là-dessus, il faut lui donner effectivement les joueurs pour que lui réussisse, parce qu'on sait que c'est pas lui qui va s'adapter. Ça, on le sait, c'est écrit dans le marbre, c'est gravé dans le marbre, il y a pas de problème, on le sait ça. Donc Allegri, il va pas travailler avec Vlahovic pour changer son système et faire en sorte que Vlahovic aille mieux. En fait, lui, il veut un joueur maintenant qui soit prêt pour lui.
Et exactement.
Lukaku paraît, en tout cas sur le papier, précisons-le d'abord, beaucoup plus apte à répondre, je ne vais pas dire au jeu, mais aux exigences de Massimiliano Allegri sur le terrain.
Mais tu sais, un peu comme, alors la piste maintenant c'est un peu envolé parce qu'il devrait s'y en arriver solide, mais tu vois, la piste Franck-Kessié au milieu du terrain, ouais, c'était un peu dans la même logique. C'est-à-dire que, voilà, on connaît Allegri. Alors certes, l'année dernière, il a lancé des jeunes, mais aussi par nécessité, parce qu'il y a beaucoup de blessures. Exactement, il y a beaucoup de blessures au milieu de terrain, les Fagioli, les Miretti, et j'en passe. Mais certain que, on le sait, Max Allegri, lui, a besoin de joueurs prêts maintenant. Et c'est certain que si on regarde le terrain, ces dernières saisons, enfin du moins ces dernières saisons et demie, c'est certain que Vlahovic a eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Et dans l'idée d'Allegri, dans sa pensée, dans son raisonnement, lui est persuadé qu'avec un Lukaku qui remplacerait Vlahovic, il y aurait une grande possibilité même de gagner le titre. Alors qu'avec Vlahovic, il faudra encore travailler dessus, il faudrait adapter un peu le jeu, il faudrait bosser là-dessus. Et certain que Lukaku arrive dans l'idée de jouer assez bas avec un bloc, on le sait, assez reculé et partir en contre. On se rappelle un peu Johan Inter de Conte, Lautaro Lukaku à l'époque.
Bien sûr.
Et c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et certain que Lukaku, dans cette Juve-là, qui joue assez bas pour repartir, pour contrer, c'est un rock, on le connaît. Et s'il parvient vraiment à faire une saison, on va dire, où physiquement il est au top, parce que c'est vraiment ce qui lui a manqué la saison dernière, c'est qu'il a eu trop de difficultés physiques. Lui, il a dit à la fin, et Inzaghi en parlait souvent, en disant que Lukaku, on le sait, il mise quasiment tout sur son physique. Donc, dès qu'il est un peu moins bien, tout de suite, son jeu en pâtit. Et c'est ça. Imaginons que Lukaku arrive demain à la Juve, qu'il est à 100% physiquement tout au long de la saison, tu pourrais avoir un joueur qui, on le sait, en Serie A, a un impact dévastateur. Donc,
mais tu vois les réserves que tu poses, Guillaume, ça se pose vraiment, en fait, pour le coup, parce que la morphologie de Lukaku, elle est particulière. C'est un joueur, quand même, qui a entamé sa 30e année.
Oui.
On sait que quand tu passes la barre des 30 ans, et ça, c'est pas un truc qu'on balance en l'air, c'est que les joueurs.
Je le dis pas pour nous, parce qu'on a passé les 30 ans.
Oui. On le sent déjà, nous, on va pas se mentir, mais pour des joueurs de haut niveau habitués à s'entraîner, etc., la barrière des 30 ans, que ce soit des préparateurs physiques, que ce soit des médecins, que ce soit les joueurs eux-mêmes, ils en parlent et ils l'évoquent clairement, que c'est différent. Il faut faire attention à ce que ce physique ne devienne pas un poids aussi très lourd à porter pour Lukaku, parce que comme tu l'as dit, il a besoin d'être dans une condition physique optimal.
Toujours. Alors,
ouais. On pourrait dire c'est le cas de tout le monde, mais honnêtement, encore plus avec Romelu Lukaku.
Il ne se cache pas, hein. Il ne s'en cache pas du tout, elle le dit aussi. Hein.
Et on l'avait vu, son excellente saison à l'Inter, c'est parce qu'il était, au-delà même des trames de jeu qui étaient très codifiées avec Conte et qu'ils sont beaucoup moins avec Allegri, et ça c'est une vraie différence aussi, il y avait une forme physique où tu as l'impression qu'il marchait sur tout le monde en fait. Où tu as l'impression que c'était, tu sais, la fameuse expression un homme contre des enfants. C'était un
peu
ça. Ah
ouais, non mais il martyrisait. Rappelle-toi les derbies à l'époque, que ce soit avec Romagnoli ou les autres, il les martyrisait vraiment au sens propre du terme. Il y avait une différence athlétique, physique, où on avait un joueur qui marchait sur l'eau. Alors évidemment que son duo à l'époque avec Lautaro était exceptionnel, mais en tout cas lui, il a vraiment changé la donne quand l'Inter gagne le titre parce qu'il a apporté cette impulsion et ce. Voilà, ce physique-là à une équipe bah, qui en avait besoin et cette saison-là, elle avait été exceptionnelle de sa part. Donc, c'est certain que si Lukaku arrive en forme et qu'il parvient à la maintenir, il peut vraiment apporter quelque chose à cette Juve-là. Mais on parle toujours. Alors, Johan, on le sait que voilà, on est toujours du même avis là-dessus, mais là, on est vraiment dans le raisonnement de Max Allegri. C'est-à-dire que sur l'échange propre, voilà, je pense qu'on est tous les deux assez d'accord sur la valeur des deux joueurs. En tout cas, voilà, dans l'esprit, si on raisonne avec l'esprit de Max Allegri, pour lui, c'est vraiment un plus d'avoir Lukaku parce que c'est un joueur qui, aujourd'hui, alors, qui à 100% peut vraiment t'emmener alors, vers le Scudetto, on verra bien, mais en tout cas, qui peut te donner un plus à l'instant T. Alors que Vlahovic, quand même, si on parle purement du terrain, avec toutes les raisons qu'on a évoquées avant pour un peu l'excuser de tout ça, bah Vlahovic aujourd'hui quand même sur le terrain, bah tu sais très bien que tu vas être probablement encore en proie à des difficultés, qu'il y a quand même une inconnue technique. Est-ce que il va poursuivre sur la même saison que la saison dernière ou est-ce que il va pouvoir se racheter? Donc il y a plein d'inconnus. Alors que Lukaku arrive, tu sais que voilà, il va parfaitement s'adapter avec ce que propose la Juve de Max Allegri. Donc c'est comme ça que résonne aujourd'hui la Juve, au-delà évidemment de l'aspect financier qu'on a rappelé pour commencer.
Ce qu'il faut aussi quand même dire, c'est que on va avoir une saison à la Juve avec un match par semaine, ouais, sauf quand tu arrives éventuellement la Coupe d'Italie ou ce genre de choses-là, que Lukaku, pas Lukaku, Vlahovic ou pas Vlahovic, dans le cas d'un maintien de Vlahovic et l'effectif actuel, la Juve est un candidat extrêmement sérieux au titre, on va le dire comme ça. Je lisais encore ce matin Allegri qui disait « c'est absurde de parler de Scudetto ». Non, c'est pas absurde. T'as un effectif qui, déjà l'année dernière, avec la Coupe d'Europe, devait jouer le titre. Il n'a pas été… Le niveau de cet effectif n'a pas baissé pour le moment sur le mercato. Donc avec un match par semaine, encore heureux qu'on te demande de jouer le Scudetto. Parce que sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'effectif du Torino. On va prendre l'effectif de la Juve. Le Torino qui jouera un match par semaine aussi la saison prochaine, qui doit être de mémoire le premier club non européen la saison dernière.
Parce que la
on va regarder poste par poste et puis on va regarder ce qui est normal pour un match par semaine entre les deux clubs. Donc il ne faut surtout pas que l'argument Lukaku devienne un argument Scudetto. C'est-à-dire qu'avec Lukaku, on peut jouer le Scudetto. Non. Avec Vlahovic, tu devais jouer le Scudetto également. Mais ça, c'est le premier élément.
Surtout ça, Johan. Mais je voulais juste confirmer, c'est très important de le rappeler, le facteur que la Juve ne joue qu'un match par semaine, c'est quelque chose d'essentiel dans le cours d'une saison. Tu l'as vu la saison dernière avec tous les grands clubs qui ont beaucoup de mal à revenir des Coupes d'Europe le week-end, parce qu'évidemment, voilà, que ce soit le mercredi, le jeudi, les déplacements, on le sait, c'est quelque chose qui te prend des forces et qui te prend des points en Serie A. Ça a toujours été. Depuis la nuit des temps, mais c'est certain qu'aujourd'hui, la Juve, avec l'effectif qu'elle a et avec le fait qu'elle n'a qu'un match par semaine, ça en fait un candidat plus que crédible, voire obligatoire pour le titre. Parce que l'effectif, déjà, est de qualité, parce que aussi, la masse salariale reste la plus grande d'Italie pour l'instant, donc c'est aussi une exigence par rapport à ça.
L'année dernière, 160 millions d'euros. Je rappelle le Milan en 2022 et le Napoli en 2023 ont remporté le Scudetto avec la moitié ou moins de la moitié dans le cas du Napoli.
Exactement, mais voilà, c'est vraiment important de rappeler que cette Juve-là avec un match par semaine, évidemment, pendant que le Napoli, le Milan, l'Inter, la Roma, la Lazio vont devoir jouer avec des champions, la C3 ou la C4, la Juve va pouvoir préparer ses matchs calmement, tranquillement, le week-end. Donc forcément, c'est un élément, alors on verra si c'est décisif, mais c'est un élément qui est évidemment à prendre en compte avant le début de la saison.
Je voulais rappeler un dernier élément sur la condition physique de Lukaku. C'est que sur les 5 dernières saisons, toutes compétitions confondues, dans ces 3 différents clubs, il n'y a qu'une fois où il a dépassé les 40 titularisations, toutes compétitions confondues, dans des équipes qui jouaient 50-60 matchs. Là, il passe, comme je l'ai rappelé, la barre des 30 ans, il l'a passé. Attention au temps de jeu de Romelu Lukaku, parce que d'un côté, il faut lui donner du temps de jeu pour qu'il soit en forme, mais de l'autre, c'est le moment où tu as le plus de risques de blessure aussi, quand tu n'es pas à 100%. Donc, on verra un petit peu. Et si, pour être tout à fait juste, si on parle des interrogations autour du physique de Lukaku, il faut aussi parler de Vlahovic, de sa pubalgie, qu'il
bien
a
sûr,
eu,
ouais.
qu'il traîne encore parfois certaines douleurs, qu'une pubalgie, ça peut être très tenace. On l'a vu avec certains autres joueurs qui ont été très embêtés dans leur carrière par des problèmes de pubalgie. Je pense par exemple à Marco Verratti, où tu as le sentiment que ça peut revenir à tout moment, que c'est jamais vraiment parti, que les douleurs peuvent être là, peuvent te stopper dans des moments totalement imprévus. Et donc, c'est aussi une donnée à prendre en compte pour un joueur qui n'a que 23 ans pour le moment. Mais si on parle de quelques pépins physiques pour Lukaku, il faut aussi revenir sur Vlahovic et donc dire que Chelsea aussi, quelque part, prend un petit risque, entre guillemets, en prenant un Vlahovic qui, la saison passée et celle d'avant, a été gêné par des problèmes physiques.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ouais, exactement. Et il y a deux choses moi, que je voulais rappeler. Tu reparlais de Chelsea. On n'a pas parlé au tout début, mais je vais le dire maintenant. C'est vrai qu'en juin dernier, déjà, il y avait eu la possibilité. Hein, la Juve avait déjà un peu tâté le terrain à l'époque avec Chelsea pour savoir si cet échange était faisable. À l'époque, Chelsea avait dit non. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des clubs saoudiens qui étaient intéressés à Lukaku. Il y avait l'Inter surtout, qui était prêt après à mettre du cash dès maintenant. Donc, Chelsea avait dit non merci, on négocie avec d'autres, donc pas maintenant. Aujourd'hui, voilà, il n'y a plus beaucoup de clubs sur Lukaku, ou du moins, c'est plus compliqué. Donc, l'échange, on va dire, a pris forme du côté de Chelsea, qui est revenu un peu du côté de Lyon en disant, finalement, on veut bien étudier un peu cet échange-là. Et la deuxième chose, Johan, qu'on n'a pas dit, c'est quand même l'improbabilité de ce transfert-là, quand même, de Lukaku à la Juve. On rappelle que l'Inter quand même l'avait repris la saison dernière après son départ à l'aube de la saison du Scudetto, un départ quand même qui n'avait pas été on va dire top ni sur le fond ni sur la forme, où il était un peu parti comme un voleur sans dire au revoir à personne. Alors il l'avait fait une fois arrivé à Londres, mais bon, ça n'avait pas été très apprécié du côté de l'Inter. Il revient la saison d'après avoir fait un appel du pied à Noël lors d'une interview à Sky où il déclame son amour à l'Inter. L'Inter le reprend en prêt avec option d'achat. Ça se passe, on va dire, la saison, on va dire, est, comment dire, correcte, plus, ou même pas, c'est compliqué. C'est une saison 5 sur 10. Voilà, on est sur du moyen plus. Et l'Inter veut encore le garder, négocie pendant un mois et demi, deux mois avec Chelsea. Et au moment où elle arrive pour payer, parce qu'elle a trouvé un accord, Lukaku est introuvable, son agent aussi. L'Inter découvre un peu la supercherie dans le sens où son agent l'avait proposé à l'AC Milan, l'ennemi juré l'avait proposé à la Juve, l'ennemi juré aussi. Donc voilà, le fait de voir Lukaku à la Juve, on rappelle aussi qu'il y avait une grosse bagarre la saison dernière en Coupe d'Italie, avec les insultes racistes de certaines énergumènes qui étaient du côté de la tribune des ultras de la Juve.
Et souviens-toi des fameux... je te tiens, tu me tiens par la barbichette avec Cuadrado. Les deux joueurs changent de club, ce qui est assez. Enfin, si Lukaku s'est fait.
Oui, c'est vrai.
C'est quand même c'est assez vrai. Mythique aussi. Hein.
Voilà, mais tu vois, la forme et le fond de tout ça, quand même. Voilà, je te l'ai quand même souligné parce que qui aurait pu imaginer que Lukaku, après tout ça, après toutes ces déclarations, moi je me rappelle son interview à Sky, il dit non, mais Milan et la Juve, il répète, je pense, 10 ou 15 fois non. Alors ça, c'est du classique dans le foot, mais c'est vrai que tout ce qui s'est passé après, le voir aujourd'hui partir à la Juve, si ça se concrétise, voilà, on est quand même dans le domaine. Alors on pensait avoir tout vu, mais alors celle-là, c'est quelque chose quand même qui est très surprenant. Et l'Inter Juve de la saison prochaine, Johan, avec Cuadrado d'un côté et Lukaku de l'autre, c'est quelque chose quand même qui va avoir le détour, parce que c'est deux transferts quand même que personne n'aurait pu imaginer il y a encore quelques mois, et surtout pas l'Inter, qui pour le coup a été très surprise et a perdu beaucoup de temps, Johan, aussi, hein, parce que l'Inter, dans ce dossier Lukaku, elle a négocié pendant un mois et demi, deux mois avec un joueur qui, à la fin, lui a dit non merci. Et l'Inter a perdu un temps précieux, au point qu'aujourd'hui, on en parlera dans un prochain podcast, aujourd'hui, l'Inter cherche encore un attaquant. Donc ça veut dire qu'elle a perdu beaucoup de temps pour un joueur qui, pour parler un peu familièrement, lui a mis un peu à l'envers.
Et puis on va juste l'évoquer pour le petit sourire, hein, Guillaume, parce qu'on l'a fait entre nous avant de... Avant de lancer l'enregistrement, ce transfert a évidemment fait beaucoup parler, logiquement. Il y a évidemment tout ce que tu as dit au niveau affect des supporters, et puis il y a l'emballement médiatique.
Je vois où tu veux en venir.
Bah oui, Guillaume, avec la couverture par la Gazzetta de ce double transfert Chelsea-Juve Lukaku-Vlahovic. On est quand même sur du comique, parce que bon, on sait que le quotidien qui est présent à Milan, dont le siège est à Milan, est plus qu'un club un journal milanais, lapsus, mais est un journal pro-Inter, on le sait depuis toujours. On sait que le Corriere dello Sport est pro-club romain et Napoli, on sait que le Tutto Sport est pro-Juve, il n'y a pas de problème là-dessus, et pro-Torino aussi d'ailleurs, au passage, la Gazzetta aussi d'ailleurs, rapport à Urbano Cairo, qui est le propriétaire de la Gazzetta.
Merci.
Mais tu vois, je on en a parlé. J'ai repris quelques articles. Parce que là, on enregistre vendredi 4 août, donc le podcast va être disponible. On est le matin, le podcast va être disponible dans l'après-midi. Tu vois, 12 juin 2021. Les secrets de Lukaku, qu'est-ce qu'il mange, la cryothérapie, le repos, etc., pour rester en forme. Gazzetta. Hein. Le 19 août 2022, la diète de Lukaku pour maintenir son poids de forme. Alors, c'est très élogieux, il fait attention à ce qu'il mange, etc. 22 juillet de... Alors, c'est de quand, ça ? J'ai pas la date, tiens. Mais en gros, Lukaku, la sueur et la diète, il mange du poulet, il mange du poisson, il mange du riz noir. En fin de saison, on avait eu aussi... tu sais, quand il revenait de blessure, des articles élogieux, il est en train de tout faire pour revenir, il fait très attention à ce qu'il mange, etc. Et pouf, aujourd'hui, mon cher Guillaume, dans la Gazzetta, que trouve-t-on, mon cher Guillaume ?
Écoute, en une, d'ailleurs, on peut le retrouver, hein, où on voit Lukaku, où la phrase est « Lukaku, je crois, défie la balance par rapport à son poids » ou quand tu ouvres un peu la Gazzetta du jour, et même celle de la veille, donc du jeudi 3 août, où il y a, comme je te le disais juste avant d'enregistrer, où en gros, on explique pourquoi Lukaku est un traître par rapport à ses sponsors, par rapport à ses clubs, par rapport à ses supporters, que c'est l'histoire de sa carrière, et qu'il ne pense, et je ne cite, qu'à l'argent. Et aujourd'hui, voilà, c'est la question de son poids, où on assure qu'il n'est pas en grande forme, qu'il a un taux de taille en trop, et que voilà, il est vraiment au défi, je cite, de sa balance. Donc voilà, c'est même un peu violent, Johan. Hein.
C'est
dur quand même pour le joueur.
C'est malaisant, je trouve.
Ouais, parce que alors au-delà de ça, parce que c'est pas la première fois qu'on est dans le football, évidemment, mais c'est vrai que on va dire le changement de cap est un peu drastique, et voilà. Moi, je trouve quand même qu'il y a des phrases un peu violentes, parce que tu vois, aujourd'hui quand même le football. Malheureusement, c'est l'argent. Tout le monde change de club. On pourrait parler de Tonali qui a joué son amour à Milan, qui est parti à Newcastle pour aussi de l'argent. Donc voilà. Alors certes, je l'ai rappelé, le cas Lukaku a surpris par rapport au fond et à la forme. Mais c'est certain que j'ai lu des choses.
T'es pas obligé d'afficher ton désamour aussi violent.
Disons que c'est un peu violent,
Bon voilà, on tenait à le préciser parce qu'on a un petit peu rigolé avec ça, Guillaume, avant de lancer l'enregistrement. Ouais. Donc, ça paraissait logique de.
Mais
de
tout le monde, mais tout le monde le voit, Johan. Hein,
oui,
sur les
oui,
réseaux, sur. C'est quelque chose qui, voilà, qui est souligné. C'est pas nous qui l'avons repéré. Hein, c'est quelque non. chose qui est très.
En fait, il suffit de lire la Gazzetta et de s'en rendre compte. Hein,
exactement. Exactement.
Voilà qui boucle ce petit podcast d'actu autour de Lukaku et Vlahovic. N'hésitez pas donc à nous dire, mon cher Guillaume. J'arrête pas de dire mon cher Guillaume, mais je le pense vraiment.
Mais c'est gentil.
C'est vrai que tu es très cher. Non, mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. On va faire plus de formats comme ça. Guillaume, il faut surtout pas hésiter aux 5 étoiles aussi.
5 étoiles, partagez, ouais, partagez sur Twitter, sur les différentes applications où vous pouvez retrouver le podcast, ça s'appelle Podcast et j'en passe. Donc évidemment, partagez, faites-nous connaître. Hein. Ça fait un paquet de temps maintenant, Johan, qu'on fait ce podcast-là. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Vos retours sont importants, vos compliments, vos critiques parfois aussi, vos suggestions. Donc n'hésitez pas voilà, à parler du podcast et à nous faire vos retours. On est toujours preneurs de tout ça.
Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Calcio et Pépé. Ciao, ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.